J'achète que vraiment ce que j'ai besoin, quoi. C'est-à-dire que je j'ai pas envie d'avoir le dernier meuble, dernier cri, j'ai pas de voiture, j'en ai pas besoin. Donc j'ai des choses, je dis, mais j'en ai pas besoin. C'est-à-dire qu'une espèce de refus de consommation, refus de me créer des besoins dont on voudrait que je sois consommatrice, en fait. Donc ça, bon, c'est à mon échelle, mais c'est vrai que je crois qu'il y a plus autour de moi de plus en plus de personnes. Et c'est pas forcément. Ouais, ça y contribue, hein, c'est la crise, etc. Ça y contribue, mais en même temps, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une espèce de. À un moment donné, c'est. Bon, on n'est pas des oies qu'on gave, en fait, voilà. Donc, pourquoi produire ça? Ça rejoint un petit peu ce que tu expliquais. On se pose la question du sens de ce qui est produit. Donc, comment créer un produit nouveau, comment décliner une énième manière de bouffer la patate, quoi. Bon, là, en chips, en machin, etc., pour créer un nouveau produit, alors que bon, ça reste toujours de la pomme de terre avec beaucoup de graisse. Donc, c'est ça, on n'a pas besoin. Donc, bon, bah, voilà, quoi. Donc, c'est des choses au quotidien, plus que bah, parce que c'est vrai que si ça déprime, quoi. En attendant le grand jour, ça déprime. Donc, c'est dans les actes du quotidien que les choses se font. Enfin, actuellement, en plus.
Mais là, Annie, c'est vrai que c'est une pensée très développée, la pensée, disons, plus ou moins écologie ou d'écologie sociale. Mais moi, je crois encore, tout en peut-être le remettant en présent, en reformulant l'idéologie, à la lutte des classes. Ça, elle s'est peut-être modifiée, mais elle ne s'est pas anéantie. Il existe encore des différences liées au rapport social de production. Donc le problème, et je crois que la politique, ça consiste pas seulement à réfléchir, ça consiste à créer du collectif. Et pour pouvoir pratiquer l'exercice d'un rapport de force, c'est un rapport de force. On est quand même dans une guerre avec des prédateurs meurtriers à l'échelle du monde, on le voit autour de nous. Et il ne faut pas se leurrer sur sa capacité à camoufler ses crimes et à nous rendre responsables. Je vous rappelle que, toujours je sais si c'est Pierre Bourdieu ou autre qui avait dit, on parle sa capacité à s'emparer du langage, à parler d'exclus, alors qu'il n'y a pas d'exclueur dans la langue française, et on ne dit pas exploité parce qu'il y a des exploiteurs ou opprimé parce qu'il y a des oppresseurs. On dit exclu, ça renvoie à aucune culpabilité. Donc je pense qu'il est temps, dans cette guerre, même si le mot effectivement est dur et cruel, de nous déterminer dans un combat qui est extrêmement violent. Alors cette violence, on peut la mettre au niveau où on la veut, mais il y a vraiment un conflit majeur entre des gens résolument ennemis. Il ne faut pas se leurrer. Qu'ensuite, il y ait des incompréhensions dans des gens qui sont dans les mêmes galères et qui sont en train. Le fait que les conflits ne puissent pas s'exprimer, ils sont remplacés par des aigreurs. La société médiatique, elle personnalise en dépolitisant, elle enlève le sens collectif d'un représentant en allant à sa personne sans arrêt. Et depuis, ça déteint sur nous. La recherche de l'ego, tout ce qui nous atteint. Pourquoi on ne serait pas atteint nous-mêmes? L'humilité devient un combat personnel. Il faut presque s'en soucier pour ne pas céder chacun à sa petite heure de gloire au détriment d'un rassemblement collectif. Alors, tout ça, c'est au sein de cette grande supercherie qu'il faut se déterminer. Mais malgré tout, je crois que créer du collectif, ça suppose s'organiser. Si les grands partis sont défaillants par la perte d'une idéologie, c'est qu'ils n'ont pas su reformuler une idéologie de manière à la mettre au présent et puis ensuite l'exprimer de manière à la transmettre avec désir, l'expression étant le passage obligé des idées. Le plus souvent, même une idée neuve ou progressiste, elle est altérée par la manière dont elle est exprimée, parce que, on ne se soucie plus de la nécessité, de représenter le monde, comme de représenter une lutte, parce que beaucoup de dirigeants, moi j'en côtoie beaucoup de politiques, pensent que s'ils ont compris, les autres, ils vont comprendre, quoi. Et là, c'est vraiment un crétinisme aigu et qu'il est très difficile, d'aborder, puisque les lieux d'échange de cette pensée en acte ne s'exercent plus. Quand on réfléchit, c'est dans des débats qui sont hors du champ d'une lutte concrète. Social ou autre. Alors évidemment, là, on va réfléchir, on va avancer de la pensée, mais à quel moment on va pouvoir cette pensée, autrement que seule, la mettre dans un collectif de lutte? Parce qu'on va tous se replier après dans notre découragement. C'est des machines à décourager, quelquefois qu'on entretient nous-mêmes, par développer une pensée progressiste sans la mettre en acte.
Entièrement d'accord avec toi, c'était juste pour pas déprimer devant l'incapacité du collectif.
Moi, je veux des gadgets
aussi.
Bah, consomme. Moi, je ne trie pas mes ordures.
Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est face à toute cette culpabilisation qui est individualisée que je réponds instinctivement par une réaction individuelle. Parce qu'on était là sur la question de la consommation, du marché, etc., du sens de ce que l'on consomme et de ce que l'on produit. Bah, écoute, oui, des débats de... Ce soir, on n'est peut-être pas assez beaucoup, très beaucoup, mais on a eu des soirées aussi où il y a beaucoup de gens. Bon, c'est des débuts de discussion venus d'horizons différents. Après, qu'est-ce que ça fait, je sais pas. Et puis, je sais pas, un jour, on va se retrouver dans la rue et puis on va se reconnaître, on va être contente de se reconnaître, je sais pas.
Mais je crois que la forme politique est peu appropriée à mobiliser aujourd'hui les énergies... sociale, culturelle, enfin bref, l'énergie, le désir des gens sur l'ampleur des problèmes que l'on a désignés là. Donc je crois que la forme politique n'est pas appropriée. Ça ne veut pas dire que j'évoque un désespoir politique, mais des limites extrêmes du politique. Donc je pense que cette démocratie approfondie peut advenir si on parvient à la... si elle peut être portée par des formes d'organisation qui sont plus longues, plus patientes, plus durables que les formes politiques. Le politique fonctionne aujourd'hui. Toutes les formes politiques aujourd'hui sont aujourd'hui astreintes à un fonctionnement de marché politique, lui-même connecté de manière très immédiate au marché audiovisuel, dans lequel effectivement les pensées politiques se produisent et se consomment comme des petits pains, et donc sans du tout la durabilité que ceci suppose. Donc moi je crois davantage à la construction de conflits dans le champ social, mais pas dans les formes que l'on a connues jusqu'à présent de lutte sociale. Je m'explique. Je donne l'exemple de l'école. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse fondamentalement attendre d'un mouvement syndical sur l'enseignement qu'il nous permette d'accoucher d'une école démocratique. Pourtant, nous avons besoin du mouvement des travailleurs de l'enseignement, mais aussi du mouvement des enseignés, des jeunes, des lycéens, et de l'ensemble des citoyens intéressés à faire advenir des formes scolaires démocratiques, inconnues pour l'instant dans le système scolaire. Donc pour moi, ce qui pourrait fédérer, ce qui pourrait permettre le passage à la pratique, est de définir des enjeux que j'appelle fonction collective et qui permettent d'associer, ici pour simplifier, je parle de trois types d'acteurs, les acteurs qui y travaillent, les acteurs qui y vivent et les acteurs qui y sont directement ou indirectement intéressés. Donc, je crois qu'il est possible de structurer ou de trouver les éléments d'un mouvement pour une école démocratique. Je crois qu'il y a moyen de faire la même chose sur l'hôpital. Je crois qu'il y a moyen de faire la même chose sur les équipements urbains. Je crois qu'il y a moyen de faire la même chose sur le logement. Mais il faut donc apprendre à fédérer les énergies au-delà de la division du travail dans lequel nous avions l'habitude de penser les conflits. Tu vois ce que je veux dire ? Donc effectivement, il faut du temps et fondamentalement des moyens culturels. Pourquoi des moyens culturels ? Parce qu'on doit déménager les problèmes. Je dis, les problèmes sont configurés aujourd'hui, on va dire, comme des carrés ou comme des rectangles, et il faut, pour pouvoir les traiter comme un ensemble de cercles. Pour passer d'une vision à l'autre, je ne vois pas d'autre moyen que des moyens de type culturel. Déménager des problèmes, ça suppose des moyens culturels, donc des moyens qui mobilisent l'expérience sensible et émotionnelle et raisonnée, intelligente des uns et des autres. Parce que votre première intervention, hein, sur effectivement, si les enfants, enfin, si on donnait autrement à manger aux enfants, ben effectivement, je vois naître. Vous voyez aussi, ça doit avoir lieu ici, sur Paris et sa banlieue. Je vois naître effectivement quantité de réflexes quotidiens culpabilisés, rationalisateurs, hein, qui demandent beaucoup d'énergie. Hein, se trier les déchets, hein, ça demande une énergie folle. Effectivement, on se demande pourquoi on pourchasse à ce point les individus et si peu les entreprises. Hein, c'est une bonne question. Mais donc, je crois qu'il y a moyen de fédérer l'attention des citoyens sur le fait que c'est pas mal d'essayer de dresser 66 millions de Français à faire la différence entre le papier, le plastique, la ferraille et compagnie. Mais ce serait encore évidemment plus simple si on parvenait à convaincre les 66 000 entreprises ou les 6 600 entreprises ou les 660 entreprises qui dominent le marché, hein, de produire autrement. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a moyen d'imaginer, de fédérer des luttes qui sont d'abord de nature culturelle. Par exemple, hein, quand, moi j'adore quand tu dis moi je ne trie pas, voilà, ça prend du temps. Et j'aime bien, j'adore quand tu dis moi je trie, etc. Bon. Et effectivement, ce qui est intéressant, ce qui donne lieu à un travail culturel, c'est de comprendre l'alliance entre celui qui ne trie pas et celle qui trie. L'alliance, c'est effectivement une alliance de type culturel sur comment situe-t-on dans le conflit là-dedans, hein, jusqu'où est-ce qu'on l'intériorise. Jusqu'où en fait-on une pratique compensatoire, hein, le tri, par exemple, et jusqu'où on initie avec d'autres des moyens qui, au départ, sont des moyens de sauvegarde et d'auto-organisation et qui, à terme, peuvent être porteurs de conflits. Je vois effectivement des arrangements sur des paniers bio, de réapprendre, hein, les légumes de saison et de tout ce qu'on veut. Il faut effectivement avoir des surplus de temps, hein, et donc des appartenances sociales évidentes pour s'adonner à ce type de plaisir. Et donc, le problème, effectivement, ce n'est pas de généraliser les paniers bio, mais de généraliser la lecture des conflits sociaux, économiques et politiques que ces paniers signifient.
Oui, tout à l'heure, je vais être peut-être un peu à côté, mais vous me le direz. Tout à l'heure, quand certains d'entre nous, en particulier Annie, disaient résistance. Et résistance, ça veut dire qu'on agit contre une initiative de quelqu'un d'autre. Et bon, avec n'importe quel contenu, selon les actions des uns et des autres. Et je me disais, on est en train, on se dit, nous, il faut que nous résistions à ceci ou à cela. Pourquoi ? Parce qu'on a en face de nous une force ou des forces qui veulent soit construire quelque chose que nous ne voulons pas, soit détruire quelque chose que nous aimons bien et dont nous voudrions que ça continue. Bon, je pense par exemple à toute la structure sociale de la France qui est en train d'être mise à mal par celui qui est là-haut, enfin le petit qui est là-haut. Ouais. Et puis par ailleurs, on a souvent des mouvements de résistance de gens qui habitent dans une vallée, qui ne veulent pas qu'on leur mette ni une ligne à haute tension, ni une ligne de chemin de fer, ni autre chose, une route, qui arrangerait bien les autres, mais pas eux. Et donc dans ces cas, il y a résistance. Tout ça pour dire que j'ai maintenant, enfin, d'après ce qui est exprimé, le sentiment que nous ne construisons pas, nous ne faisons que résister. Et qu'on est face à des gens qui peut-être construisent. On a construit le chemin de fer à partir de 1845. Actuellement, ce sont plutôt les réseaux téléphoniques et autres qui sont construits. Mais on a aussi à faire face à des gens qui détruisent toute la dérégulation qui a dû commencer avec Madame Thatcher à peu près à cette époque-là. Les citoyens ont résisté en général pas trop bien parce que la dérégulation s'est poursuivie. Voilà. Donc, je me disais, il y a eu, peut-être qu'on idéalise aussi les périodes où on construisait, parce que je pense que quand on a commencé à construire les lignes de chemin de fer sous le Second Empire, les paysans dont on prenait les terres ne devaient pas être trop contents. Et quand on a construit des barrages pour faire de l'énergie propre, les gens dont on prenait les terres aussi pour faire un lac à la place n'étaient pas trop contents. Mais maintenant, on idéalise, parce qu'on est content de les avoir. Mais j'ai ce sentiment qu'actuellement, on ne construit pas. Mais je perçois comme ça. J'étais peut-être à côté du sujet.
Moi, je ne crois vraiment pas que vous soyez à côté du sujet, parce que d'abord, il n'y a pas un grand ordonnateur qui va définir ce qu'est le sujet, puisqu'on est précisément dans l'inconnu du sujet. Hein, si on est dans l'inconnu du sujet, ce qui m'a conduit à une conclusion qui est de type procédural, hein, pour parler en français, c'est-à-dire je ne peux pas dire autre chose que il me semble qu'il y aurait moyen de refaire conflit si on prenait les moyens de discuter du sens de la production partout où elle se loge. C'est ça, l'idée d'une nouvelle étape de la démocratie, qui n'est pas de faire signe une fois tous les quatre ans, mais d'occuper l'espace-temps entre les deux et d'occuper effectivement les fonctions collectives. Donc c'est une vision, je trouve, plus approfondie ou plus complète de ce qui était proposé initialement dans le propos, je dirais, socialiste ou communiste initial. Forcément, à l'époque où... on est au début de l'industrialisation, on n'envisage pas ce qui est notre destin aujourd'hui, à savoir que la socio-économie s'occupe de tous les aspects de la vie. Hein ? La socio-économie est discrète encore au XIXe siècle. Aujourd'hui, la socio-économie s'occupe de la reproduction de l'humain, elle s'occupe de tous les aspects de nos vies, en ce compris, pourquoi pas, la fabrication de l'humain. Donc, le système productif a pris une ampleur. Le capitalisme a pris une ampleur qui, aujourd'hui, suppose de lui faire une réponse à sa hauteur. Je ne vois pas d'autre hauteur que la démocratie, c'est-à-dire on en discute.
C'est toujours cette discussion entre pensée et acte. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est comment faire, parce que je pense qu'on est là, on a à peu près tout conclu, on est d'accord qu'il faut... réinventer, réinjecter de l'imaginaire, réexpérimenter, puisque les formes, faut trouver des nouvelles formes à donner aux luttes politiques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il faut faire attention nous-mêmes à ne pas se mettre dans une utopie chimérique, qu'on reste dans l'utopie possible ou expérimentale. C'est-à-dire que, par exemple, tu avais dit une chose il y a des années qui m'a beaucoup influencé, qui m'a beaucoup aidé, c'était, je me rappelle très bien, on avait fait un travail à papier, c'était « Les conflits des savoir-faire sont sortis des usines pour devenir les conflits des savoir-vivre en ville ». Je traduis plus ou moins bien. Ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les outils existent, les outils de la démocratie parlementaire, de la démocratie représentative. Dans les villes, c'est quoi ? C'est les services, c'est les équipements. Ça, c'est un équipement culturel qui a été l'objet de lutte, même si par la suite, il apparaît comme un acquis et qu'il apparaît ordinaire, que ça peut ronronner ou que dans la ville, c'est bien, il y a tel équipement, il y a un théâtre, il y a un cinéma. Et puis tout ça, du moment que ça existe, on s'en fout un peu au niveau des pouvoirs politiques si ça fonctionne, hein, parce qu'on est plus dans la production que dans la diffusion réelle. C'est-à-dire, on se soucie de produire, mais on ne s'intéresse pas à la qualité du contexte, des circonstances de diffusion qui qualifie une production, sans laquelle c'est que de la merde, enfin c'est inerte. Hein. Donc je pense, est-ce que c'est pas aussi de réintégrer le combat dans la ville, c'est-à-dire ça ne nous empêche pas d'avoir des initiatives, d'expérimenter nous-mêmes ou avec l'association, le voisinage que l'on peut atteindre, ou que l'on a les moyens d'atteindre, parce qu'on voit bien que ces coquetteries idéologiques sont aussi pour des couches qui ont une certaine possibilité économique. Moi, si je ne trie pas mes ordures, c'est parce que j'ai remarqué que le camion poubelle dans la ville, il les remélange, les poubelles dans le camion, et que c'est retrié pour des raisons sécuritaires à l'usine de tri sélectif que nous, on a, par exemple, à Ivry-sur-Seine, avant d'être cramé. Donc, ça me fait marrer quand même qu'on culpabilise le citoyen à trier ses petits alors qu'on sait très bien que les grandes entreprises... Bon, vous voyez comment c'est quand même la disproportion énorme de ça. En tout cas, peut-être qu'une des hypothèses, c'est comment revenir, non plus en tant que citadin, mais en tant que citoyen, c'est-à-dire, je l'ai dit aussi, ou d'autres, c'est celui qui participe au conflit social, et nous réinscrire dans le voisinage le plus immédiat de nos vies. Et là, ils mettent le monde. Pas seulement ils mettent nos petits problèmes, hein, de bac à fleurs ou autre. Mais ça, c'est malheureusement pas la tendance majoritaire, parce que ça emmerde tout le monde, les difficultés de vie. L'idéologie la plus dominante, y compris l'idéologie des forces de lutte dites de gauche ou des municipalités dites progressistes, eh bien, elle ne pousse pas, les contre-pouvoirs l'emmerdent. Les contre-pouvoirs qui sont une source pour les pouvoirs sont, pour eux, un emmerdement total. Il y a une recherche du consensus, il y a une recherche de gestion de paix sociale, etc. Donc voilà, donc je crois que s'il y avait quelque chose qu'on peut faire, c'est tout en élaborant nos propres plaisirs, désirs personnels, ça, ce n'est pas des organisations forcément qui vont les mettre en œuvre, il faut peut-être qu'on fasse cet effort politique, civique, citoyen, d'aller faire chier les gens inertes dans les outils que la démocratie, même parlementaire, même bourgeoise, nous a quand même donnés. Parce qu'on n'est pas dans une dictature encore. Il y a encore des outils démocratiques. Et ces services, il faut s'en réemparer. Et ça, c'est très difficile parce que la culture du travail s'étant effondrée, on est amené à lutter contre des travailleurs. On n'est pas amené à lutter forcément contre des capitalistes, des gros prédateurs, puisque c'est un conflit de culture. Donc c'est extrêmement difficile. La critique s'étant personnalisée, moi, par exemple, dans ma ville, on ne dit pas tel responsable culturel, je ne suis pas d'accord avec son truc, on ne dit pas tu n'es pas d'accord, on dit tu ne l'aimes pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on transpose, hein, alors que je le trouve plutôt sympa par ailleurs, c'est pas tellement que pour ça que je ne suis pas d'accord. Donc je pense qu'il faut prendre ce risque aussi de s'investir en tant que je avec quelques nous. Voilà.
Oui. Bah, écoute, je suis parfaitement d'accord. Donc je crois qu'on voit. Le lieu du passage à l'acte, effectivement, n'est pas un lieu imaginaire macro, est un lieu visible et sensible à partir de l'endroit où on est. Moi, j'aime beaucoup le concept ou la notion de fonction collective parce qu'elle me paraît donner une chair à ce que tu dis là, hein, à savoir, je continue à rêver sur un plan local. Je crois que, je reviens sur l'école, hein, mais vous allez voir, je crois que un lieu comme celui-ci, la maison populaire, pourrait se donner pour enjeu stratégique de regarder comment les écoles du voisinage peuvent être appréhendées, peuvent être approchées. Comment, que ce soit par les travailleurs, que ce soit par les enfants, que ce soit par les jeunes, que ce soit par les parents et les citoyens, comment peut-on structurer une approche collective d'un service public aussi gigantesque et aussi porteur d'enjeux que celui-là. En sachant qu'on peut l'aborder aussi sous l'angle des temps et des espaces pour les adultes. En sachant aussi que tellement d'adultes aujourd'hui ont des problèmes d'adultes et d'enfants, des problèmes de repérage, enfin, n'importe qui, confronté à l'immense bibliothèque mondiale, hein, a aujourd'hui des problèmes de repérage dans ce qu'est la géographie, l'invraisemblable géographie des savoirs au milieu du marais des informations. Hein. Mais toutes ces questions-là, elles peuvent être travaillées à une échelle locale. Et je crois que c'est en travaillant sur les frontières et les interstices entre ce qu'est l'école, ce qu'est une maison populaire, ce qui reste d'acteurs collectifs, associatifs ou syndicaux, autour d'enjeux comme ceux-là, d'enjeux extrêmement quotidiens et extrêmement concrets, je crois que c'est ça qui permet effectivement de passer à l'acte d'une démocratie approfondie. Oui. Un exemple titanesque d'enjeu à mettre au monde, hein, de conflit à mettre au monde, c'est tout ce qui se trame autour du vieillissement. On va avoir des pataquès de... Quoi ? D'abord, on est de plus en plus concernés, hein, chaque jour. La manière dont les personnes définies comme improductives sont traitées dans notre société sont des choses qui ahurissent, hein, nos camarades qui viennent du Sud. D'accord ? On n'a jamais vu en Afrique, en Asie ou en Amérique latine qu'on traitait les gens comme on les traite ici, comme on les maltraite ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, dans les espaces-temps qu'on leur réserve. Eh bien, avec les scénarios démographiques qui s'offrent à nous et les impasses de finances publiques sur les régimes de retraite qui sont en train de s'organiser, hein, il y a là un enjeu fabuleux, qui est un enjeu de lutte urbaine, si on veut effectivement casser la production industrielle des mouroirs, hein, qui est en train de s'organiser. Donc comment faire une ville qui se mobilise pour faire toute la place aux personnes âgées dans tous les aspects de la vie sociale ? C'est un fantastique enjeu conflictuel à mettre au monde, avec bien sûr les structures socio-sanitaires, les légions de travailleurs socio-sanitaires concernés par l'enjeu, mais aussi par toutes les familles concernées par l'enjeu.
c'est un sujet qui comporte plein d'éléments, et en particulier une
série de monumentales hypocrisies. Car les personnes âgées, je dirais, j'en suis, n'ont pas toutes besoin qu'on vienne les pousser dans leur fauteuil. Hein, il y a des moments où je monte les échelles, les marches moi-même. Et par ailleurs, la collectivité repose, je le vois peut-être parce que je suis pas mal investi dans la vie associative. La vie associative repose, en tout cas sous nos climats, en grande partie sur les jeunes retraités. Donc des gens qui ont été dispensés d'aller travailler et qui en même temps sont encore capables de se déplacer tout seuls et d'assurer, aux heures où les autres sont au travail, le fonctionnement d'un certain nombre d'associations, y compris pour des tâches matérielles, des tâches de liaison, etc. Cette partie, je pense, de la vie associative, quand on parle de lien social, enfin de choses tout à fait abstraites, mais bon, cette partie-là repose sur cette catégorie. Moi, c'est ce que je vois ici. Peut-être qu'en province, peut-être qu'ailleurs, c'est autrement. Mais repose sur une tranche d'âge, je sais pas, 55-65, quelque chose comme ça, dont on ne parle pas par ailleurs. C'est des gens qui, par ailleurs, ne posent pas de problème, puisque je maintiens, on n'a pas trop besoin de les pousser dans leur fauteuil roulant. Et donc, ils ne sont pas à la charge de la collectivité, sauf que la collectivité leur donne quelques sous tous les mois pour manger et payer leur loyer. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Un autre point qui n'a pas grand-chose à voir, c'est qu'on dit... oui, maintenant, on met d'une part, on dit les vieux, ça coûte cher. Deuxièmement, dans le privé, passé 50 ans, on n'est plus bon à rien, donc on pousse dehors, sauf les dirigeants des grandes entreprises, qui, eux, comme les hauts fonctionnaires, d'ailleurs, peuvent rester au pouvoir jusqu'à 68 ans et plus. Et quand je dis rester au pouvoir, c'est rester au pouvoir. C'est-à-dire, ils ont tous les avantages de la fonction, les hauts revenus et le pouvoir. Alors que le travailleur de base, qui soit... je dirais qu'il soit ouvrier ou ingénieur ou autre chose, on va lui dire, on va le regarder de travers à partir de 45 ans, et à partir de 52 ou 53, mon gars, t'es plus bon à évoluer. Mais maintenant, on leur explique qu'ils doivent travailler chez 70 ans parce qu'il faut qu'ils restent le plus longtemps possible au travail, comme ça, ils empêchent les jeunes d'y accéder. Donc, je pense qu'il y a plusieurs séries d'hypocrisies sur le rôle des personnes âgées. Et le vieillissement n'est pas uniquement le quatrième âge, n'est pas uniquement la dépendance, quoi. Voilà.
Là, le début et l'illustration d'un conflit culturel sur qu'est-ce qu'on fait.
Mais moi, je voudrais faire plaisir à Luc en complexifiant le problème encore. C'est-à-dire que, oui, il y a les personnes âgées, c'est une catégorie peu pas considérée. Mais en même temps, on est dans une culture dominante du jeunisme comme marché qui oblige un jeunisme pour les personnes qui ne sont plus forcément des jeunes. Mais en même temps, les jeunes véritables, eux, sont complètement invisibles dans la réalité de leur corps, de leur pratique. Il y a aussi, donc c'est vrai qu'il y a les personnes âgées, mais il y a aussi un drame total. C'est toute cette jeunesse en construction, qui est quand même la force essentielle d'un devenir, qui est complètement larguée pour la partie des couches populaires, notamment, ou les plus pauvres, et qui sont complètement, qui vont créer un fond de violence, où là, effectivement, le vandalisme est la forme... non politique de la révolte ou de la révolution. Et donc voilà, avec un danger terrible que ces violences débordent le changement social par la nécessité d'un ordre plus dur, fasciste même. Donc là aussi, donc c'est vrai qu'il y a le problème du vieillissement, qui est un problème démographique d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est aussi lié à une quantité accrue, dont le capitalisme s'empare comme marché parce qu'il a bien pigé. Mais paradoxalement, il y a une idéologie du jeunisme qui l'accompagne, qui est au moins aussi négatif, parce qu'on abandonne dans l'arrêté, dans leur corps, la majorité des jeunes gens, des jeunes filles.
Bien, le cahier des charges qui se nourrit. Ouais.
Par contre, on est tous d'anciens jeunes et de futurs vieux, de toute manière.
Justement, moi, je me pose la question de la démocratisation culturelle, en fait. Dans cette idée de jeunisme, enfin de génération jeune qui fait pas forcément grand chose, est-ce que la démocratisation culturelle et l'éducation populaire auraient pas un rôle à jouer là-dedans aujourd'hui?
Oui. Moi, je crois qu'il y a un extraordinaire potentiel de conflit, effectivement, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'excès de culture, à savoir, et qui concerne évidemment massivement les générations montantes, à savoir la course au cursus scolaire, hein, et la capacité infiniment plus fluide aujourd'hui qu'hier d'accéder à des stocks d'informations et des œuvres diverses, fait que la rupture entre les potentiels culturels de la population jeune et ce qu'on les autorise à faire dans la vie, la rupture est colossale. Absolument colossale. Et donc, ça, c'est pour moi le plus extraordinaire potentiel de conflit du capitalisme informationnel. C'est qu'il est obligé de produire et de faire consommer, globalement, on va appeler ça de la culture, hein, même si c'est discutable, beaucoup plus qu'il n'en a besoin dans le système productif à inégalité constante. D'accord ? Donc il y a en fait... il faut s'attendre à voir monter les censures sur l'accès aux écoles et à la connaissance, parce que le risque ainsi accumulé est trop grand. Donc ça ne m'étonnait pas tout à l'heure dans le train de lire que les tarifs d'accès aux universités autour de Paris ou à Paris sont en voie d'explosion. Hein, je voyais des un Minerval à 4000 euros. Enfin bon. Donc moi je crois que la censure dans l'accès à la connaissance et à la culture est un phénomène qui va monter de manière extraordinaire. Et donc je crois que ça c'est un conflit splendide. Mais sans même attendre cette censure, le conflit entre tout ce que les jeunes pourraient faire et ce qu'on ne les autorise pas à faire est déjà en soi quelque chose, enfin une énergie sociale, à mon avis, immédiatement disponible. Encore faut-il effectivement des acteurs qui se proposent de le travailler. Donc dans la question du passage à l'acte, hein, que tu poses depuis le début de la soirée, il y a évidemment une inconnue douloureuse qui est la question, pour passer à l'acte, il faut des acteurs. Hein. Alors effectivement, on est aussi, on est nous-mêmes avec... Enfin, l'acteur est un jeu. Hein. Donc ça, je crois que c'est à la fois une évidence... Une évidence heureuse aussi, hein, parce qu'on est tous positionnés comme des jeux, potentiellement acteurs. Mais les acteurs collectifs sont eux aussi des inconnus à inventer. Ils ne sont pas disponibles, hein, les acteurs collectifs. L'action collective est potentiellement mobilisable, mais les acteurs collectifs, je n'en connais pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup dans l'héritage. On voit plutôt leur fatigue, hein.
Et je crois qu'il y a un problème de représentation des luttes qui est vraiment un déficit total. Par exemple, on parle tout le temps de la violence des luttes, mais on ne parle pas de la tendresse, on ne parle pas des solidarités. Jamais on nous parle de ces bonheurs que l'on rencontre dans les luttes, comment ça nous nourrit. On ne montre que la difficulté, on ne montre encore une fois que la figure du malheur. C'est-à-dire même quand on fait une image pour dénoncer un malheur, si on ne montre pas la part de bonheur perdue par ce malheur, on ne fait qu'amplifier le malheur par la figure que l'on en fait.
Tout à fait.
Hein, je donne un exemple concret pour qu'on se comprenne. On avait fait à l'association des papiers un autocollant qui a eu beaucoup d'écho, qui s'appelait Rêve Général. C'était les manifestations au début contre le CPE. Le badge officiel du Parti communiste, entre autres, pour ne pas le nommer, c'était les pieds d'un jeune qui dépassaient d'une poubelle. C'est-à-dire qu'on portait les signes de la défaite pour aller lutter contre, déjà que contre, et non pas quelque chose qui était pour un devenir heureux. Ce qui explique le succès d'amener un jeu de mots à deux balles, mais rigolard, sur le rêve, la grève, etc. Mais encore une fois, les signes de la lutte sont souvent des signes négatifs. Comment peut-on construire un discours de transformation si on montre une tête de mort en marquant vive la vie, on va avoir du mal à s'y retrouver, quoi.
Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs parfois eu du mal avec certaines de tes images, notamment les McDonald's, tu vois, les...
oui.
Hein, parce qu'il y en a vraiment qui sont chargés d'une négativité terrible, tu vois.
Oui, mais là, je te renvoie à l'idée du contexte et des circonstances qui font qu'une image n'est pas forcément universelle. Cette image-là avait été faite essentiellement pour les manifestations contre la dette du tiers-monde, et ensuite, elles n'ont jamais été distribuées dans des manifs comme on le fait pour d'autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut comprendre que c'est le mode de diffusion qui va qualifier le sens, parce que là aussi, l'image, elle est chargée de tous les sens, hein, polysémique, pour dire des mots plus gentils. Donc ça aussi, ça va dépendre des circonstances de diffusion. Pour la... Et quelquefois, il y a des maladresses, que telle image va faire contresens à certains endroits. Donc, je suis d'accord, cette image-là, ce n'est pas une image. Donc, à l'association, on diffuse très largement tout le temps par rapport à d'autres. Par rapport à Joyeux Bordel, par exemple, qui est plus polyvalent.
Oui. Mais à propos de ce que tu dis sur la joie ou la tendresse, hein, j'ai un vieux souvenir d'un conflit. J'ai dû raconter à des tas d'endroits, donc peut-être vous l'avez déjà entendu, hein, mais pas tout le monde. C'était en Belgique, on a eu des conflits dans l'enseignement très longs, très durs. Début des années 90, je suis invité dans un lieu de grève des enseignants. J'étais là en front commun, comme on dit en Belgique, tous les syndicats réunis dans un hall industriel. Et ils étaient en grève depuis 6 semaines, facilement. 6 semaines de grève générale dans l'enseignement, c'est ça, ça se coud un pays. Hein. Et donc, je les rencontre et je vois qu'ils ont produit les uns une pièce de théâtre, les autres une vidéo, d'autres des grands panneaux, des écritures, tout ça. Enfin, bref, ils avaient fait de la production, entre guillemets, culturelle, sur l'école. C'est-à-dire, en grève, ils s'étaient occupés de réfléchir à leur signifier, réfléchir, s'exprimer de manière structurée sur l'enjeu de l'école. Moi, on me met là comme d'habitude, hein, le nomade philosophe, là, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, mais je suis estomaqué, vous êtes en grève, syndiqué, et vous êtes en train de créer culturellement des représentations du sens de l'institution, de votre métier, etc. Donc, je dis, je suis émerveillé. Et il y a un gros bras du syndicat qui monte à la tribune, il dit, vous n'avez rien compris. Certes, on a fait tout ça, mais pas au syndicat, puisqu'on réfléchit. Et lui, il voulait dire, puisqu'on a réfléchi, ben forcément, c'est qu'on n'est plus au syndicat. Et c'est le type du syndicat qui dit ça. Donc, c'est évident pour lui que la forme d'action du syndicat est une forme administrative. Hein, surtout dans l'enseignement, grosso modo, les syndicats servent à distribuer les avancements, tout ça. Enfin bon, un rôle de régulateur quasi-administratif. Et donc il dit, ben, si on est créateur, c'est donc qu'on n'est plus au syndicat. Et donc, c'est évident pour moi de leur en bas, hein, de leur social en bas. Je dis stop, stop. Mais au même titre qu'un jour à la Villette, pas loin de là où on s'est rencontré il y a en 92, je crois. Hein, oui. Eh bien, à la Villette, j'étais invité. Et il y avait, c'était création et monde du travail. Hein, et il y avait là un type de, il y avait là un écrivain qui a fait un séjour. Résidence d'écrivain dans le journal Le Monde. Bernard Noël, c'est possible ? Voilà. Donc Bernard Noël est là et il est travailleur du Monde. Il a amené une délégation avec lui et il est le type de la CGT qui est là aussi. Et les travailleurs disent ce qui est fantastique avec le travail de Bernard, enfin qu'on a fait avec Bernard, c'est que tous les jours on sortait un journal de l'usine, de nous, de notre vie. Et on se l'arrachait, hein, on se l'arrachait. Et le type de la CGT dit, oui, et le journal syndical, le journal syndical, on ne se l'arrache pas, on le met à la poubelle. Et donc, de nouveau, c'est la perle, évidemment. Ah, comment ça se fait que le journal syndical finit à la poubelle et que le journal de l'écrivain, on se l'arrache? Et comment ça se fait que le syndicat n'a pas ici l'idée de continuer à travailler avec l'écrivain? Enfin, je veux dire, c'est... Il se passe quelque chose. Si on s'arrache le journal de l'écrivain, c'est qu'il se passe quelque chose d'essentiel. Bon, je ne me suis pas fait un copain avec le type de la CGT. Il était furieux. Et il n'a pas voulu comprendre qu'il y avait là, en fait, tout l'enjeu qui se fait là. Vous voyez, comme sur l'enseignement, c'est qu'on est là. On est des travailleurs réunis. Et parce qu'on serait syndicaliste, hein, on devrait bloquer notre intelligence. Mais non, au contraire. Syndicat, hein, en grec ou en latin, ça veut dire parler ensemble. Hein. Syndicar et syndico, dans toutes les langues, ça veut dire parler ensemble. Et donc changer le monde en parlant ensemble. C'est ça, syndiquer. Et donc ce retour culturel aux origines du syndicalisme, c'est, à mon avis, le syndicalisme, je dirais, dans une conception plus globale que celle de la lutte des classes, hein, parce que la conflictualité, c'est généralisé. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué. Ce n'est plus le vis-à-vis d'un salaud de patron avec des travailleurs exploités, c'est forcément beaucoup plus complexe. Puisque celui qui est exploité est celui aussi qui s'exploite par ses stratégies d'achat dans les magasins ou tout ça, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, lutte des classes, certes, mais plus complexe.
Je ne vois pas ce qui serait plus complexe que la lutte des classes, que la lutte des classes, elle contient une complexité. Ce n'est pas parce qu'elle est racontée ou résumée à une histoire de plus-value avec un patron, un méchant patron, et puis des ouvriers exploités. Les formes de la relation, elles évoluent en fonction de l'époque, des conditions objectives, etc. C'est certain que les formes de l'exploitation se sont modifiées. On est passé d'une société d'exploitation à une société d'exclusion, on était passé par une société d'information, etc. Donc pour moi, ça reste la lutte des classes dans le sens où je vois quand même qu'il y a des gens qui possèdent la propriété des moyens d'information, au même titre qu'ils possédaient, si ce n'est pas les mêmes, les moyens de production, que les moyens de production, avec le travail du capital flottant, ça, c'est modifié, c'est plus forcément des machines, etc. C'est plus la valeur travail. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais ça reste quand même une lutte des classes, simplement. Elle est moins chez. C'est plus les 200 familles.
Mais c'est ouais. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je veux dire, je crois que je voulais dire d'imaginaire. Je crois que je parlais d'imaginaire.
Mais pour moi, c'est intéressant de redonner de la présence à la lutte des classes. Et on est en train de sortir justement une nouvelle forme, c'est « Je lutte des classes ».
J'ai vu ça.
Parce que ça nous paraît important, notamment dans les manifestations, de redonner de l'origine aux choses et de que les personnes se confrontent dans la manif ou dans la... en disant « Bah non, la lutte des classes, c'est plus ça ». Très bien. Si ça permet de faire provoquer des paroles au sein d'une fraternité qui va oser, justement au sein des manifs, parce que là aussi, il y a le lieu... je sais qu'on avait fait une manifestation, on est sur la mondialisation du capital avec un économiste, etc. Et les personnes osaient poser des questions pour apprendre, parce que pour apprendre, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. On a toujours peur d'avoir l'air con en posant des questions. C'est très difficile. La parole, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi des expériences pour ne plus avoir peur de penser que c'est au risque de dire une connerie qu'on peut dire des choses intéressantes. Donc beaucoup de gens n'osent pas amener leur témoignage. Toi, donc là aussi, je pense que c'est intéressant de redonner, en tout cas, je pense qu'il faut reformuler nos idéologies, y compris dans ce qu'elles ont de vocabulaire, sur la lutte des classes, sur l'économie, sur tout ce qui fondait le savoir des luttes ouvrières, par exemple. Et ça n'existe plus. Personnellement, moi, je ne suis plus membre du parti, mais quand j'ai adhéré au parti, il y avait des écoles élémentaires, des écoles fédérales, des écoles. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment ignare. Et c'est là où j'ai pu apprendre ce que c'est la philosophie. C'est dans l'école du parti que on m'a filé Pulitzer, un petit bouquin, puis j'ai commencé à comprendre. Ça me faisait chier. Rien que le mot, déjà, ça me faisait chier, parce que c'était un truc qui n'était pas pour moi. Ben oui. Et puis, etc. Beaucoup de données. Puis après, donc, il y a aussi, dans les luttes, pas forcément des savoirs, mais le goût du savoir. Donc là, mais ça, c'est arrêté, il me semble. On n'est plus que dans la nécessité des luttes, mais elle ne s'accompagne plus d'une culture des luttes. C'est ça qui s'est effondré.
Ah, peut-être qu'ils arrêtent par d'autres chemins.
On a un petit problème, si j'ose dire, de support matériel. C'est que vous disiez tout à l'heure que dans la production, il faudrait qu'en fait les gens qui produisent discutent entre eux pour savoir... Enfin, la nature de ce qu'ils produisent. Oui, mais quand on regarde des productions matérielles, une bonne partie a été délocalisée. Comment on fait pour... bon, je ne sais pas si on peut instrumenter d'ici une discussion au fin fond de la Roumanie ou de la Chine. J'ai quelques doutes. Comment on fait pratiquement? Et comment on fait par ailleurs pour cette... comment dirais-je, ramener un peu le débat ici. Je pense sur la production, c'était facile, tout semble facile quand c'est dans le passé. Il y a 50 ans, c'était facile quand on produisait une voiture, tout se faisait ici. Bon, il fallait aller chercher le caoutchouc ailleurs, mais à part ça, le fer, le charbon, tout ça, les ouvriers, tout le monde était là, pas loin, et on rentrait les matériaux d'un côté à l'autre, et à l'autre bout, ils sortaient une voiture. Maintenant, il se passe autre chose. C'est pour ça que je dis, enfin, je pense que de la manière le capitalisme a gagné provisoirement la bataille idéologique. Et ils nous ont y compris culpabilisés en utilisant un tas de moyens. Regardez, vous n'êtes pas malheureux, regardez les pauvres petits Africains qui meurent de faim, les pauvres Asiatiques qui sont surexploités, qui sont dans les pas les tremblements des inondations, non, c'est Haïti, les tremblements de terre, mais bon. Donc vous, vous n'êtes pas malheureux. Et puis en plus, il faut bien produire pour les autres, la mondialisation, c'est très bien, tout ça. Les gens ne savent plus où ils sont. On ne peut plus, bien souvent, avoir de lutte dans les entreprises parce que les services ont été morcelés, en grande partie pour passer sous les lois sociales, pour éviter les comités d'entreprise et autres trucs emmerdants. Mais donc, les gens ne se, il n'y a plus les grandes concentrations de salariés qu'il y avait il y a encore 20 ans, etc. Donc, comment on peut faire ? Je ne pense pas qu'on soit plus heureux pour ça, globalement. Mais comment peut-on faire, pratiquement, pour un peu faire ce que vous préconisiez, donc de discuter de l'objet de ce qu'on produit ? Dans la mesure où la production est souvent plus ici.
Je ne sais pas comment on peut faire, mais j'ai simplement une petite idée sur la manière de commencer. Et pour moi, le commencement, il est effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, il est aujourd'hui dans les lieux de vie. Il est dans les lieux de vie et évidemment dans l'interaction entre les lieux de vie et les lieux de travail, mais il est d'abord dans les lieux de vie. Et donc, je crois qu'effectivement, les localités, les municipalités sont d'excellents territoires de départ de lutte. Je pense que je disais tout à l'heure sur les écoles et la maison populaire, plus l'enjeu d'Internet et tout ce que vous voulez, pour les adultes aussi, est un enjeu sur lequel on peut commencer à structurer une lutte. On trouvera bien des liens. Si cette lutte se structure, des liens se découvriront forcément, à la fois sur le plan territorial, sur le plan des voisinages, et via les enjeux de la mondialisation, les voisinages peuvent être effectivement très loin. Mais le problème me paraîtait de commencer. Si on essayait d'avoir évidemment une vision construite de l'ensemble, il y a de quoi être durablement fatigué. Hein ? Donc je propose de concentrer l'attention du débat sur le début. Le début, c'est commencer à continuer ou continuer à commencer à structurer des énergies dans le lieu où se condensent, où se concentrent aujourd'hui des processus d'exploitation, de domination et d'aliénation qui sont les lieux de vie. Et ces lieux de vie sont structurés d'abord et avant tout par des services collectifs, dont certains sont publics, dont d'autres sont privés ou associatifs, dont d'autres sont enfin marchands. Et je crois qu'autour de ça, on peut construire, autour de la notion que j'appelais de fonction collective, on peut construire de grandes... On peut construire une vue de ce qui nous est, de ce qui structure notre vie commune et qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y engage et qu'on s'y lutte. La classe.
Ça veut dire que c'est la participation à la citoyenneté, c'est-à-dire à la vie au plus près de chez soi, au plus près du jeu, c'est quels sont les autres les plus proches, déjà. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le goût de l'autre. Et la ville, c'est aussi quelque chose qui permet de ne pas être emmerdé par un voisin ou de pouvoir
s'échapper à l'autre. Ouais.
De ne pas échapper à l'autre. En même temps, on n'est pas forcé de vouloir échapper à l'autre. On peut aussi lui rentrer dedans. Ou on peut aussi, ça dépend. Là, il y a peut-être des problèmes d'éducation, de caractère, de pensée. Quoi. Moi, je sais que je suis assez porté sur... la vie sociale, il y a des multiples endroits dans les villes où on peut s'inscrire à la transformation sociale à partir d'un échange. Par contre, je sais par expérience que c'est extrêmement dur et extrêmement pénible parce qu'il y a des coûts individuels qui sont portés. On n'est pas dans un débat anonyme. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences à s'engager plus à nu, plus à découvert dans son quartier que... en luttant pour un problème international, ce qui n'exclut pas l'autre.
Mais c'est la raison pour laquelle je propose de donner beaucoup d'importance à la notion de droit culturel, de dimension culturelle des droits, beaucoup plus qu'au thème de la participation. Pourquoi ? Parce que la participation est un thème qui est généralement manipulé aujourd'hui dans le champ politique de manière très intensive, mais toujours hors droit, tu vois ? Donc, sans passer par ce qui est tellement fondamental au niveau des droits et qui, précisément, protège les moi et les je, hein, dans ce que forcément, ce qui forcément émerge comme conflictualité dans ces mécanismes de participation. Donc je crois que l'enjeu premier de la participation dont tu parles est d'accoucher d'une définition juridique des mécanismes de participation, qui à ce moment-là sont mieux que de la participation, si tu veux, permettre de l'implication selon le droit.
Le droit, il a besoin d'un lieu pour s'exercer. Et ça, c'est pas toi qui l'as. Il faut déjà l'exiger.
Bien sûr.
Un droit, le but de la politique, c'est de produire de la loi. Mais si après, les citoyens s'abandonnent la loi gagnée, on le voit bien sur le droit à l'avortement, on le voit sur des buts qui sont sans cesse remis en cause, qui sont sans cesse menacés, s'il n'y a pas un accompagnement, y compris des victoires, comme des choses en mouvement et pas comme des résultats. Il y a une espèce de culture du résultat qui est assez chiante. Moi, je suis pour la culture de la question élevée, mais jamais du résultat, parce qu'on abandonne du coup comme un gain et on est désarmé par rapport à...
Tout à fait. Pour reprendre la question de l'école, le problème n'est pas de résoudre la question de la socialisation scolaire. Le problème est de viser à ce que les enseignants puissent avoir le droit effectif de discuter de l'école, que les enseignants aient le droit effectif de discuter et de contre-discuter de l'école, et que les parents des citoyens y aient aussi accès. D'accord ? Donc, pour moi, l'enjeu n'est pas que l'école fonctionne mieux, mais que l'école puisse être exposée à l'expérience intelligente et sensible des enseignants, des enseignants et des citoyens et des parents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'école se prive de cette sensibilité, de cette expérience, de cette intelligence-là. L'école est une non-institution. Ou, si vous voulez, une organisation vide.
Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions.
Est-ce que, par exemple, certains d'entre vous participent à un moment ou un autre à la vie, une vie associative locale, municipale, par exemple? Est-ce que dans votre ville, vous avez une relation X d'une activité municipale, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit politique, qu'elle soit de quartier ou de voisinage? Ou est-ce que si vous n'avez pas cette occasion, ou ça ne vous arrive pas? Oui, voilà, à travers l'équipement de la maison. D'accord. Parce que je pense que, oui, mais réinvestir, il me semble. Oui, mais en même temps, c'est une activité. Le problème, le risque, c'est que le jeu occulte le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il occulte les enjeux, en tout cas. C'est ça, il y a jeu en jeu, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, qui est important, quoi. Très souvent aussi, les acquis des luttes conduisent à des hobbies, des divertissements, des équipements, qui font qu'ensuite, il n'y a plus la nécessité pour les personnes, y compris quand on était, de repousser encore la limite des acquis pour plus de bien-être ou plus de partage. Tu vois. Je vois dans les villes, et ça c'est vraiment une question d'idéologie, de culture, on a affaire quand même à des ennemis qui ont des outils disproportionnés et de plus en plus forts à travers leur capacité de dissimulation, d'intoxication, de matraquage de cerveau, on le voit bien. Hein. Là aussi c'est difficile. Donc je pense que c'est à chacun de voir comment il peut trouver son bonheur, c'est peut-être excessif, parce que c'est pas bien, enfin, son équilibre à s'inscrire à certains moments, pas d'une manière, pas comme des curés, enfin je dis ça, je ne vais pas encore dire du mal des curés, mais de s'inscrire dans une vie collective avec bonheur, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'inscrire dans une vie collective avec bonheur? C'est peut-être ça, pas développer, qu'il faudra développer. Parce qu'effectivement, tout ce qui est militant, c'est chier, quoi. C'est tellement une image du négatif, de l'abnégation, de l'emmerdement, c'est au détriment du week-end, du machin, du truc, alors que c'est pas du tout ça.
Non, mais c'est là qu'aussi on a parlé, enfin, un des fils conducteurs de l'analyse esquissée ce soir, c'est la crise de la division du travail, mais je crois qu'un des aspects de cette crise de la division du travail, il y a un aspect très heureux, c'est qu'effectivement, les figures de nous-mêmes qui étaient autrefois fortement segmentées, à savoir quand on était travailleur, avant que les droits sociaux et que le mouvement ouvrier n'aient fait son travail, on n'était pas citoyen et certainement pas individu. Quand on était donc citoyen, on était certainement pas travailleurs et pas individus non plus. Aujourd'hui, ces figures de nous-mêmes sont non pas du tout réconciliées, mais en communication les unes avec les autres. Hein. Il nous paraît évident, par exemple dans les rapports familiaux, qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, d'accord ? Ni entre hommes et femmes, ni entre adultes et enfants. Ça veut dire aussi qu'il y a des éléments de citoyenneté, des éléments de travail, des éléments d'usage, de rapport de consommation, qui investissent la vie familiale. Et ça veut dire que les figures de nous-mêmes, autrefois réparties dans un jeu de rôle hein, mythiquement simple, sont aujourd'hui en communication les unes avec les autres. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui envisager de militer comme un moi-je, d'accord ? Et non pas sacrifier ce moi-je pour militer. Donc, ce qui implique effectivement d'y avoir des parts de bonheur. Hein. Ouais. Mais donc, dans l'ambivalence, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés à imaginer une action collective à gauche aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a dans ce qu'on a évoqué ce soir de nouveaux bonheurs à devoir l'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait qu'il y ait rupture de la division du travail entre territoires était ce que nous cherchions comme internationalistes il y a 100 et 150 ans. Hein. Le fait qu'il y ait rupture de la division du travail entre l'économique, le social et le culturel fait qu'on peut reposer des questions socio-économiques qu'on avait perdu même le souvenir de les avoir posées. Eh bien, on y va, hein.
Fait voyager dans ces méandres qui restituent un petit peu les relations des différentes instances que vous avez déconstruites qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne et comment ça devient des outils de pensée pour pouvoir déconstruire et reconstruire autre chose. Merci.
Merci à vous.